Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal avec Babel Mpongo Massimango.
L'ARD vient d'initier des réformes pour moderniser la gestion de son commerce extérieur. Objectif visé, faciliter l'import-export, améliorer la circulation de l'information entre intervenants et mieux renflouer les caisses de l'État. C'est la première ministre qui l'a lancé hier à Kinshasa. Des soins gratuits pour les détenus de la prison centrale de Bounia. Ils sont une centaine à en avoir bénéficié hier. Le contingent marocain a travaillé pour cela avec l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. La prison a aussi reçu des médicaments pour 2 mois. Recrudescence des violences basées sur le genre au Kasaï central, plus de 4000 rien qu'au troisième trimestre de cette année, avec en tête des viols sur mineurs. L'ONG Femmes Main dans la Mer pour le développement intégral appelle à une mobilisation générale pour endiguer ce fléau. Nathalie Kambala-Loussé, sa directrice pays, est notre invitée. Madame, Monsieur, bonjour. La Première ministre a procédé ce lundi au lancement officiel de la transmission électronique de l'alias documentaire du système S1 de la société d'exploitation du guichet unique intégral Ségus vers Sidonia World, système automatisé de la Direction générale de douane et assises, DGDA. Selon les experts, ces termes techniques veulent simplement dire que la République démocratique du Congo modernise la gestion de son commerce extérieur. Cette réforme majeure vise à faciliter les opérations d'importation, d'exportation et de dédouanement, mais aussi à améliorer la circulation des informations entre les différents intervenants et renforcer la mobilisation des ressources dans les caisses de l'État. D'autres avantages de ce nouveau système avec vous, Alain Hirung.
Selon le ministre du Commerce extérieur, cette réforme très attendue vient notamment réduire les coûts et les délais pour les opérations d'importation, d'exportation et de transit des marchandises, assurer la transparence totale, garantir la traçabilité et faire respecter les normes. Julien Paluku Kaungia.
Je voudrais rassurer les opérateurs économiques que cette réforme ne constitue pas un blocage aux opérations commerciales. Au contraire, ça va réduire les coûts, ça va réduire les délais, ça va renforcer la transparence et ça va permettre à ce que les gens qui étaient tracassés à gauche et à droite ne le soient plus.
Pour sa part, la Première ministre a parlé d'une révolution historique pour la RDC qui consolide davantage son intégration dans le commerce extérieur. Judith Souminoa-Touluka.
L'effectivité ce jour de la transmission électronique de l'alias documentaire marque un pas significatif dans le développement du numérique en appui à notre gouvernance publique. En effet, par cette avancée majeure, notre pays vient de lever une option décisive dans la droite ligne des objectifs de développement durable.
Grâce à cette dématérialisation, les procédures sont désormais simplifiées et la mobilisation des recettes publiques va accroître en RDC avec la lutte contre la fraude douanière, a indiqué pour sa part le ministre des Finances Doudou Fouamba.
Une séance de sensibilisation sur la numérisation des archives et des documents administratifs s'est tenue hier lundi à Kinshasa. Elle a été organisée pour les services de l'administration publique et les journalistes. Cette initiative vise à souligner l'importance de la mise en ligne des documents officiels afin de faciliter au public l'accès à l'information. Et selon Henri Longenja, secrétaire exécutif du collectif 24, initiateur de cet atelier, plusieurs défis et recommandations ont été identifiés lors de cette rencontre. Ainsi, les contraintes financières, techniques et humaines figurent parmi les principaux obstacles à la numérisation. La proposition d'un projet de loi spécifique sur la numérisation des archives a également été évoquée. Que retenir d'autre de cette journée, Josué Kefebe?
Pour faciliter l'accès à l'information, le collectif 24 a réuni des acteurs afin de trouver des solutions pour la numérisation des archives publiques en RDC. Son secrétaire exécutif, Harry Longenja, parle des défis et recommandations identifiées.
L'autre défi, c'est aussi des moyens. Il y a des moyens techniques, il y a des moyens humains et surtout les moyens financiers. Et c'est aussi le moment d'inviter au gouvernement de donner aux archives nationales des moyens conséquents pour faire ce travail. Comme recommandation, la plus importante, c'est de réfléchir avec les archivistes comment initier un texte de loi qui peut être porté, si pas par le gouvernement lui-même, mais aussi par les députés ou les parlementaires d'une manière générale.
De son côté, Jean-Paul Nenga, président des archivistes, a souligné l'importance de la numérisation des archives.
Déjà, l'accessibilité est facile avec la numérisation. Vous pouvez accéder rapidement et facilement aux informations. Il y a aussi cette possibilité de diversifier l'accès aux informations numériques. Ce n'est pas seulement une couche de personnes qui auront accès aux documents qu'ils recherchent, mais pas non plus des gens peuvent accéder à des endroits différents aux informations dont ils ont besoin.
À l'issue de cet atelier, l'Institut national des archives du Congo a été appelé à renforcer sa collaboration avec la société civile pour l'avancement de cette mission.
Des embouteillages encore plus denses que d'habitude sont observés depuis le début de ce mois dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Circuler devient ainsi un véritable calvaire, aussi bien pour les véhicules que pour les piétons. Une situation favorisée selon certains usagers de la route par la période de courtoisie routière décrétée par la police nationale. Celle-ci permet aux véhicules et conducteurs non en règle d'affluer sur les routes. De Matadi, Nana Plurich Mambounou fait le point.
La circulation est restée paralysée ce lundi 29 décembre sur les principales artères de la ville de Matadi. Se rendre au centre-ville ou rejoindre les différents quartiers de la ville portuaire relève d'un véritable parcours de combattants. Chauffeurs de taxis, motocyclistes et piétons vivent cette situation au quotidien en cette période de fête de fin d'année. Témoignage.
Le problème lié à ce qui concerne les routes ou des embouteillages issus de la ville de Matadi nous rend vraiment la vie difficile. Il n'y a pas moyen vraiment de pouvoir bien exercer notre travail. À ce moment que nous sommes, il y a un moment de festivité où il y a trop de motos. Il y a aussi trop de véhicules dans la ville de Matadi. Les routes sont devenues fines.
Cette situation est alimentée par l'intensification des déplacements, notamment la circulation accrue des camions poids lourds desservant les ports. À cela s'ajoute l'occupation anarchique de la chaussée par les vendeurs, les arrêts des ordonnées des taxis et l'insuffisance de la régulation routière. Au-delà des difficultés de se déplacer, les embouteillages entraînent un stress permanent chez les habitants, contraints de passer de longues heures au même endroit sous une chaleur accablante. Les embouteillages à Matadi constituent un véritable défi urbain et affectent la qualité de vie des habitants. Plusieurs observateurs pensent que des mesures urgentes s'imposent pour une bonne gestion du trafic dans la ville. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Nous sommes en Ituri. Une centaine de détenus de la prison centrale de Bounia ont bénéficié hier des consultations et de soins gratuits. Ils ont été assurés par l'équipe médicale du contingent marocain en collaboration avec l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Ces casques bleus ont également remis un important lot de médicaments essentiels pour la prise en charge de près de 2000 détenus. Et selon la direction de la prison, cette assistance permettra de contenir les principales pathologies pendant au moins 2 mois. Isaac Raymond.
Au total, 120 détenus, parmi lesquels des enfants, des adultes et des femmes, ont bénéficié des soins médicaux gratuits. Après les consultations, les pathologies les plus fréquentes diagnostiquées sont les infections urinaires et gynécologiques chez les femmes, les gastrites chez les enfants, ainsi que des hernies chez les hommes. Des cas jugés graves ont été référés à l'hôpital général de référence de Bounia. Un détenu souffrant des maux des dents a exprimé sa satisfaction après avoir été pris en charge par l'équipe médicale du contingent marocain de la MONUSCO.
J'avais du mal. À chaque fois quand je mangeais, ça faisait très mal. On m'a remis les médicaments. Vraiment, ça m'a soulagé. Et c'est comme ça que maintenant, je suis bien portant.
De son côté, le directeur de la prison centrale de Bounia a salué ses gestes humanitaires. Il indique que le lot des médicaments remis permettra de soigner environ 2000 détenus pendant une période estimée à 2 mois. Kamil Zonzi.
Je remercie la MONUSCO. Vraiment, nous étions dans les besoins. Et souvent, quand on a des problèmes au transfert de malades au niveau de l'hôpital général, aussi longtemps que nous avons des produits qu'on vient de donner aujourd'hui, on n'aura pas les malades à transférer au niveau de l'hôpital général.
Par ailleurs, l'équipe médicale a signalé la présence de nombreux cas de mycose liés notamment aux mauvaises conditions d'hygiène et à la promiscuité dans cette maison carcérale. Elle a profité de l'occasion pour sensibiliser la population pénitentiaire aux bonnes pratiques d'hygiène. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Des hommes armés assimilés à des combattants du M23 sont accusés d'avoir enlevé une quarantaine de femmes dans le groupement de Bukombo Centre. C'est dans les territoires de Rutshuru, au Nord Kivu. Les forces armées de la RDC qui livrent l'information indiquent que les faits se sont déroulés dimanche sur la chefferie de Buito, un acte fermement condamné par le commandement de la 34e région militaire. Des détails à ce sujet avec vous, Ronéline Tibonera.
Selon les chargés de communication de la 34e région militaire, ces femmes, au nombre des 42, ont subi des actes de torture avant d'être enlevées. Se basant sur le témoignage des habitants, Diedoné Kasereka précise qu'il est pour l'instant difficile de connaître la destination exacte ou le lieu où elles ont été conduites. Cet officier des FARDC rappelle que ces raptes n'est pas les premiers attribués aux rebelles du M23. Il indique que plusieurs civils et des personnes présumées proches des combattants Wazalendo ont été tués par les M23 AFC à Mouchoro, dans la chefferie de Buito, À cela s'ajoutent d'autres crimes commis à Pitango et Musinde dans la chefferie de Batangi, ainsi qu'à Kaongole dans la localité de Katsiro, toujours dans la chefferie de Bwito, indique-t-il. Le groupement de Bukombo fait partie des zones où la situation sécuritaire demeure volatile. Des escarmouches entre les combattants Wazalendo du groupe CMC et les rebelles du M23 y sont fréquemment rapportées. Cette zone est également connue pour des graves violations des droits humains commises contre les civils. Les différentes initiatives visant à ramener la paix dans cette région se sont jusqu'ici révélées infructueuses.
Dans le Maïndombé, pendant ce temps, plusieurs villages du territoire de Kwamout sont rebaptisés depuis leur occupation par des miliciens à Mobondo. Ces hommes armés ont par exemple changé le nom du plateau de Bateke en plateau Lunda. Ces informations recueillies par Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bantundu Développement sont rendues ici par Waminki Tukulu.
Selon le service de communication de la 11e région militaire, ces miliciens poursuivent un projet de récupération des terres de populations autochtones. Le porte-parole de l'opération Ngeba, le capitaine Anthony Walouchet, l'a dit dimanche 28 décembre devant la presse à Kikwiti dans la province des Kwilu. Capitaine Anthony Walouchet.
Le plateau de Bateke et plusieurs villages du territoire de Kwamout a déjà changé de nom. Ils chassent les autochtones, ils récupèrent leurs terres et ils nomment le plateau de Bateke. Ici, on appelle plateau Lunda. Selon eux, c'est leur terre et ils doivent récupérer ça.
Un des chefs traditionnels à Kwamout, Stanley Libi, confirme ce changement de nom.
Il y a certains villages qui ont changé de nom, tels que Mbomo, ils ont appelé ça village Minikongo, et il y a Kunzulu qu'on a appelé Mawanga, il y en a d'autres qu'on a fait les derniers événements qui ont appelé ça Bulungu, et Mwemé, qu'ils ont baptisé ça Akikwit, Ambouti, qu'ils ont appelé ça Matundu, Makusho, qu'ils ont appelé le village Opo Kabak.
Nous sommes au Kasaï, centre à la prison. Plus de 20 habitations ont été incendiées la nuit de dimanche à Yorlandi au village Benabilala. C'est dans le secteur de Moutefou, territoire de Kazumba, à environ 80 km de Kananga. Selon des sources locales, les auteurs sont des membres d'une famille du village. Ils ont mis le feu à ces habitations pour venger la mort de leur frère qui aurait été assassiné selon eux. Toutefois, des informations concordantes indiquent que la victime a plutôt succombé à un abus d'alcool. La police est intervenue pour rétablir l'ordre, mais les habitants, eux, se retrouve toujours réfugié en brousse. André Katendengalamudoumé revient sur ces incidents.
Tout est parti du décès de Mouyayambombo, une quarantaine révolue habitant le village. Cette mort est survenue à la suite d'une consommation excessive des boissons alcoolisées samedi dernier. Ce dernier est décédé derrière la maison des habitants du village. Sa famille, ayant cru à un assassinat, a incendié plus de 20 maisons environnantes. C'est ce que nous rapporte Jean-Carré Mouyaya, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise dans le territoire de Kazumba.
Mouyayambombo du groupement de Benabilala, secteur de Moutefou, avait commencé sa fête depuis le 25 décembre. Alors, il avait dit à l'excès, comme il avait dit à l'excès, il est allé mourir derrière les maisons des gens. Sa famille avait pensé que c'est les gens de ce quartier qui étaient partis tuer ce monsieur-là. Alors, ils ont incendié plus de 20 maisons.
Pour le moment, le calme est revenu grâce à l'intervention de la police. Cependant, plusieurs habitants ont fui leur domicile et restent réfugiés dans la brousse par crainte de nouvelles violences. Jean-Carré Mouyaya appelle les autorités provinciales à renforcer la sécurité dans cette région marquée par une recrudescence de l'insécurité. Il souhaite que les auteurs de cet incident répondent de leurs actes devant la justice. Kananga, André Katendengalamoulumé, Radio Okapi.
Autre Nord Kivu, les boutiques et kiosques en planche situés le long de la route nationale numéro 4 sont en cours de démolition dans la ville de Beni depuis la semaine dernière. Selon l'autorité urbaine qui a initié cette opération, c'est dans le cadre de l'assainissement de la ville, mais c'est aussi pour prévenir des incendies. Retrouvons sur place Marc Maroufimbo.
Samedi et dimanche dernier, les boutiques et kiosques en plage situés dans le quartier Boïkene ont été détruits par les éléments de la police qui exécutent cette opération. Ici, certains tenanciers faisaient même à manger dans ces kiosques avec tous les risques d'incendie. Cette mesure de la mairie de Beni est saluée par les habitants. Certains accusaient ces kiosques et boutiques en plage d'être des lieux de cachette où des jeunes venaient consommer des boissons fortement alcoolisées. D'autres fustigeaient ces lieux à cause de leur insalubrité et d'être à l'origine de plusieurs cas descendit. Selon le colonel Jacob Nyofondo Tekodal, maire de la ville de Beni, cette opération va se poursuivre jusque dans les quartiers Mabakanga, dans l'avenue communément appelée les Tronques, où se situe un grand nombre de boutiques et kiosques en bois. La société civile de la commune de Mulekera encourage l'autorité urbaine et les services de l'ordre qui exécutent cette opération à aller jusqu'au bout pour redorer l'image de la ville. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un peu de 3000 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2025. C'est ce qui ressort dans le rapport de l'ONG Caminando Fronteras, publié lundi. Selon AfricaNews.net, si le rapport, ce chiffre marque une forte baisse par rapport à l'année précédente, puisque le bilan s'est élevé alors à au moins 10 460 décès ou disparitions en mer en 2024. Mais les associations de défense des droits des migrants mettent en garde, cette diminution ne signifie pas que les traversées sont plus sûres.
L'invité.
L'ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral dénonce la recrudescence des cas de violence basés sur le genre dans la province du Kasaï central. Nathalie Kambala, sa directrice au pays, indique que plus de 4000 cas ont été recensés rien qu'au troisième trimestre de cette année. Elle appelle à une mobilisation collective des autorités, des organisations de la société civile et des communautés afin d'endiguer ce fléau dans la province. Nathalie Kambala Lousse, notre invitée, à son entretien avec André Katende Ngalamouloumé.
Madame Nathalie Kambala-Lousse, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état des lieux de la situation de violence basée sur le genre ici au Kasaï central ou dans la région du Kasaï?
Je pense que la situation de cas de violence basée sur le genre dans l'espace Kasaï est un peu criante parce que ces derniers temps, nous avons eu une recrudescence vertigineuse de cas de violence basée sur le genre. Vous vous rendez compte aujourd'hui, on est pratiquement à la fin de l'année, mais au troisième trimestre, nous avons identifié ou documenté pour la province du Kasaï central les cas qui sont validés, plus de 4000 cas de violence basée sur le genre, dont 65% sont de viols et 60% sont des mineurs. Et ça, c'est inacceptable et inadmissible dans une province où il y a la calmie, on n'a pas de violence malgré qu'il y a un peu de conflits communautaires, conflits coutumiers. Et la plupart de bourreaux ou des auteurs de ces cas sont des personnes intimes, soit de personnes qui sont proches des victimes. La grande partie aussi, ce sont des violences domestiques.
Qu'est-ce qui est à la base de cette situation, selon vous?
Ce qui est vrai, qu'il y a beaucoup de facteurs qui favorisent le cas de violences basées sur le genre. S'il n'y a pas le respect des droits humains, on continue à avoir de violences. Ici, au Kasaï, nous avons des facteurs qui favorisent. C'est comme les pesanteurs culturelles. Au-delà de cela, il y a la pauvreté aussi. Il y a aussi le cas qui sont élevés de mariage d'enfants. Et aussi, il y a la justice qui fait vraiment pas son travail.
De votre côté, les structures de défense des droits des femmes, quel travail vous faites pour décanter la situation dans la région?
En tout cas, il y a des avancées significatives par rapport à la prévention des cas de violences basées sur le genre par les structures féminines. Avant, on n'en parlait pas, c'était un tabou. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de structures, quels que soient les domaines d'intervention, mais au moins, ils ne passent pas inaperçus sans parler de la prévention de violences basées sur le genre. Comme on le dit toujours, on peut tout faire aujourd'hui. On peut faire de lois, on peut faire des discours politiques, on peut faire des plaidoyers. Ça, c'est pour résoudre déjà un problème qui existe. Mais pour prévenir tout ce cas de violence passée sur le genre, je pense qu'on doit le faire à la racine. Et la racine, c'est quoi? C'est la communauté. Voilà pourquoi les structures féminines aujourd'hui ont créé des clubs genre, ont créé des mécanismes communautaires, les sensibilisations sur le média, les plaidoyers auprès des parlementaires. Nous avons plus besoin de soutien des autorités, de soutien de médias, de soutien des femmes, des hommes.
Quel message que vous lancez aux autorités, à la population, à la communauté?
Voilà, aux autorités, nous voulons lancer le message de soutien, le message d'appui, d'accompagnement. Il n'y a pas que de femmes, il y a même des clubs de jeunes qui se battent nuit et jour pour réduire ça. Mais pour le faire, nous avons besoin du soutien de l'autorité. Je demande aussi aux autorités judiciaires. Aujourd'hui, c'est la justice qui peut aussi réduire tout ce cas de violence basée sur le genre. Lorsqu'il y a des libertés en désordre, lorsqu'un bourreau est arrêté aujourd'hui et demain vous le voyez dehors, je pense que ça va fragiliser encore les victimes et aussi les familles qui ont le courage de dénoncer et refuser les arrangements à l'amiable. Alors, que la justice fasse son travail pour éviter la corruption, l'impunité aussi. Lorsqu'on arrête un bourreau, il n'y a pas de négociation à faire. Il y a des policiers parfois qui ne sont pas renforcés en capacité. Alors, nous voulons qu'on renforce aussi la capacité de ces policiers pour jouer pleinement leur rôle, de suivre le cas, le PV et orienter tous ces cas au parquet. Je voulais interpeller les structures de partenaires techniques et financiers. C'est vrai, à l'Est, il y a la guerre. Mais les violences basées sur les gens sont partout dans le monde entier. Alors, nous demandons de mobiliser les fonds pour qu'on puisse sauver les vies de femmes et de filles, et aussi des hommes qui sont aussi violentés. Et aux femmes d'être debout, de dénoncer, d'orienter tout cas de violence à des structures de prise en charge gratuitement. Et à la population de collaborer toujours avec les autorités politico-administratives.
Madame Nathalie Kambala, nous rappelons que vous êtes directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral FMDI. Et nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Et voilà qui met fin aussi à ce journal préparé par Jules Mister Bilanda avec l'apport technique de Jean-Claude Ossiala. Merci de votre attention. Excellente journée.